France Inter, le 18-20.
Ça commence, comme souvent d'ailleurs, par un sondage, quelques chiffres actualisés qui ne disent rien de très neuf et confortent même ce que l'on sait déjà. Internet n'est pas un réservoir à bisounours. 62% des 18-30 ans ont déjà visionné du porno avant l'âge de 15 ans. C'est ce que disait il y a une petite dizaine de jours maintenant Opinionway et 20 minutes. En découlent les questions habituelles que nous poserons ce soir sur l'accès trop simple des mineurs au porno, sur leurs difficultés à séparer la réalité de la fiction et donc des dangers pour leur apprentissage de la sexualité, ce qui est permis, ce qui est surtout permis de refuser, et on parle là parfois de dangers réels encourus par les jeunes filles, surtout aussi confrontées à des pratiques trop violentes. Bien, la question de l'interdiction des sites porno, donc, elle se pose et on verra si c'est réellement possible. Mais si on allait aussi un peu plus loin, puisque le porno ne se cache plus, puisque le porno n'échappe pas à l'ubérisation de son industrie, est-ce qu'il transforme réellement notre sexualité? Est-ce qu'il pousse à des pratiques extrêmes? Qui regarde le porno exactement? Et pourquoi d'ailleurs? Est-ce que regarder du porno, c'est forcément avoir un petit côté déviant? Est-ce qu'on peut considérer que c'est comme un hobby comme un autre en tout cas? Est-ce que regarder du porno à haute dose est une pathologie? Est-ce que la pornographie a changé depuis Internet? Est-ce que les femmes y sont moins bien traitées? Est-ce que pour certains et pour certaines aussi, c'est parfois un instrument de libération? Posons cette question aussi et tâchons de ne pas nous cacher derrière ces 5 ans de saurait voir. Et le reste aussi d'ailleurs, bienvenue.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Clément, c'est à vous, c'est vous le premier, on vous écoute et soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir, merci de me donner la parole et d'aborder ce sujet un peu tabou. Voilà, moi j'ai 33 ans, je regarde des films pornographiques depuis l'âge de 13 ans. Et depuis l'accès à Internet, le développement d'Internet au débit, c'est vrai que j'en regarde de plus en plus de façon quotidienne. Et malgré tout, bah, je serais pour l'interdiction des films pornographiques, parce que je trouve qu'ils dégagent une image de la femme qui est totalement dégradante. Et les films pornographiques sont de plus en plus violents. Et je pense qu'actuellement, bah, dans notre société, on devrait se poser la question on nous parle de plus en plus de morale, de comment interdire les films pornographiques.
Mais Clément, pourquoi vous ne pouvez pas arrêter? Vous avez l'impression d'avoir une forme d'addiction, quelque chose qui ressemblerait à l'addiction à la cigarette ou à l'alcool, c'est ça l'idée?
Oui, exactement, tout à fait. C'est vrai que ça parente à l'addiction à la cigarette. C'est tout à fait ça. Donc à la question est-ce que le porno est une drogue, la réponse est oui, ça peut.
Est-ce qu'on peut pas s'interdire soi-même, Clément, décider que ben on coupe sa liaison internet, par exemple, du coup ben on va nulle part, on passe la soirée à faire autre chose?
Bah ça c'est le problème de toutes les addictions. On a la volonté d'arrêter, mais on ne peut pas. Il y a une forme de dépendance. Donc après, même si c'est une dépendance moyennement forte, ça reste une dépendance. Il y a vraiment ce phénomène de dépendance. Et je pense que surtout, bah, le porno véhicule vraiment de la violence. Et aujourd'hui, quand on constate une hausse de plus de 30% des agressions faites aux femmes en Île-de-France, par exemple, faut vraiment se poser la question du porno, de la place du porno dans les agressions faites aux femmes.
Et j'ai une dernière question, pardonnez-moi, puisque je vous tiens, Clément, si je puis dire. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que votre sexualité a changé, par exemple, a été orientée, on va dire, par ce que vous regardez ou pas?
Non, pas vraiment, non.
Voilà, et ce qui est intéressant aussi en soi, y compris d'ailleurs par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, c'est ça qui est vraiment intéressant. À la fois, vous pensez qu'il y a une augmentation des violences sexuelles liées au fait qu'on regarde beaucoup de films porno. Vous êtes la démonstration que certains regardent énormément. Et visiblement, vous, votre sexualité, c'est tant mieux. Clément, évidemment, n'a pas été modifié apparemment.
Oui, non, tout à fait. Sur ce point-là, c'est vrai que...
Ah ben on a perdu Clément. C'est dommage. J'espère qu'on pourra le récupérer parce que c'était un peu brutal. Visiblement le téléphone a coupé. C'est ce qu'on a cru comprendre. En tout cas le témoignage était clair. Merci à vous Clément et surtout balaye déjà un certain nombre de choses que on sera content d'aborder ce soir dans le téléphone sonne. Bonsoir Marie-Maurice.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste. Vous avez écrit notamment Planète Porn, enquête sur la banalisation du X. C'est tout neuf et c'est publié chez Stock. Et bonsoir Florian Voros.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à l'université de Lille 3 notamment. Vous avez écrit Culture pornographique, anthologie des porn studies. C'était chez Amsterdam en 2015. Vous allez nous expliquer d'ailleurs dans un instant ce que c'est que les porn studies, exactement ce qu'elles nous disent. Ah ben non, Clément n'est pas tout à fait revenu, peut-être dans un instant. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce que dit Clément Marie-Maurice. D'abord, sur l'addiction, est-ce qu'on est addict au porno comme on est addict à la cigarette et au tabac ou à l'alcool comme il l'explique ou pas? Est-ce qu'on peut avoir ce genre d'addiction-là?
Malheureusement, oui, l'addiction à la pornographie existe. Enfin, en faisant mon enquête, j'avais l'hypothèse que c'était un petit peu quelque chose qui était brandi pour nous empêcher de consulter de la pornographie. Mmh. Et puis, j'ai rencontré notamment un spécialiste qui gère un service d'addictologie à Genève, en Suisse, monsieur Tsoulineau. Et puis, lui, il explique qu'évidemment, certains de ses patients sont accros à la pornographie. Quand je parle d'addiction, ce sont des gens, c'est pas des gens qui vont deux fois par semaine comme ça. C'est des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'y aller, qui consultent y compris dans les transports publics sur leur téléphone portable et qui souffrent de ça, qui n'arrivent pas à se contrôler un petit peu comme ce que disait Clément, il n'arrive pas à s'arrêter. Et en général, les personnes addictes, ça les perturbe dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours. C'est pour ça quand il dit que sa sexualité n'est pas impactée par ça, n'est pas touchée par ça, là c'est plutôt positif, ça veut dire que son addiction n'a pas mangé sa vie normale, quoi. Donc ça existe, mais ce qu'on peut dire, c'est une infime minorité.
Mais ça se soigne comment? Ça se soigne comme on arrête la clope
Comme n'importe quelle addiction, par une médication éventuellement,
patch,
comme avec une thérapie. Avec le professeur m'expliquait, on boit tous un verre de temps en temps à l'apéro, on n'est pas tous addicts. Donc l'addiction, ça existe, mais c'est une extrême minorité de cas.
Florian Voros, je vous voyais réagir.
Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que officiellement, selon l'Organisation mondiale de la santé et l'Association des psychiatres américains, qui sont les deux associations habilitées à reconnaître les maladies, l'addiction à la sexualité ou l'addiction à la pornographie n'est pas reconnue, en tout cas, enfin ça ne fait pas consensus parmi les scientifiques et le corps médical. Alors moi, du coup, en tant que chercheur en sciences sociales, je ne me suis pas posé la question de l'existence médicale. Je me suis plutôt poser la question de comment est-ce que les gens, comme Clément par exemple, utilisent ce mot. Et en fait, quand on fait des entretiens avec des hommes, ce qui était mon cas, j'ai interrogé la masculinité, j'ai vu plein d'usages différents de ce mot-là, parce que enfin, c'est comme être accro au shopping, être accro aux séries télé dont vous parliez il y a deux jours. Il y a un éventail assez large, en fait, d'usages du lexique de l'addiction. Et moi, ce qui me marque, c'est qu'il y a un des usages qui me semble être en jeu ici. Et je pense que l'entrée médicale par l'addiction nous cache quelque chose, c'est qu'en fait, il y a, je pense, beaucoup d'hommes, et beaucoup d'hommes hétérosexuels en particulier, qui sont attachés à un certain imaginaire sexuel, à un certain imaginaire de virilité, ou à certaines images de domination masculine. Et je pense que c'est pas strictement un enjeu de santé sexuelle. Je pense que c'est aussi un enjeu de représentation, un enjeu culturel. Et le problème, c'est que si on envisage cette question-là uniquement sous l'angle de l'addiction, on l'envisage uniquement sous l'angle du corps, des pulsions, de l'angle purement somatique. Or, c'est aussi un enjeu de quels sont nos imaginaires sexuels et à quoi est-ce qu'on est attaché.
Clément, puisque vous êtes revenu et que vous étiez parti de manière un tout petit peu brutale, je ne veux absolument pas rentrer dans ce nombre de détails, mais je voudrais savoir comment vous définissez-vous votre côté accro. Ça veut dire quoi, en fait? Est-ce que ça veut dire tous les jours en sortant du boulot? Est-ce que ça veut dire, comme le décrivait Marie-Maurice à l'instant, éventuellement même dans le métro, sur le portable? Ça veut dire quoi quand on regarde trop et qu'on se décrit soi-même comme addict?
C'est-à-dire que c'est on a, même si on considère que le porno est nuisible, on continue d'en regarder.
Mais tous les jours, c'est ça l'idée, en fait, Clément?
Quasiment, oui, d'accord, quotidien,
okay.
Oui, oui.
D'accord, ok. Voilà, c'était d'abord pour avoir dans les détails, puisqu'on en parlait, puis aussi pour pouvoir vous dire au revoir correctement, Clément, parce que tout à l'heure, c'était un peu brutal, et je voulais pas que vous ayez eu le sentiment qu'on vous ait, raccroché trop brutalement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a autre chose qui m'intéresse dans ce que nous racontait Clément, Florian Voros, peut-être sur le rapport entre la violence et le fait de regarder de la pornographie. Est-ce que ce chiffre, il existe? Est-ce que cette relation, exactement comme on dit, c'est la faute des jeux vidéo, est-ce que c'est aussi la faute du porno? En gros, est-ce que ça existe, ce lien-là?
Alors, je pense que le principe de précaution qu'il faut prendre en général, c'est que corrélation n'est pas causalité. C'est-à-dire que il peut y avoir dans des dynamiques, en fait, de violence, l'usage de pornographie. On l'a vu par exemple avec Balance ton porc, dans les dynamiques de violence au travail, dans les milieux où il y a beaucoup d'entre-soi masculin, parfois les femmes se font harceler avec des images pornographiques. Mais ce qui compte ici, c'est la dynamique de harcèlement, c'est pas le type d'objet qui est utilisé pour harceler. Donc de la même manière, peut-être que des violeurs utilisent des images pornographiques, mais ça dit moins de choses des images elles-mêmes que de leur comportement.
Et Marie-Maurice, pour terminer avec le témoignage de Clément, qui est-ce que c'est une histoire de mec, en fait, la pornographie ou pas ?
Alors aujourd'hui, selon les dernières études, environ un tiers des personnes qui consultent de la pornographie en ligne sont des femmes. Donc traditionnellement, c'est quelque chose assez masculin dont on se vante, qu'on regarde ensemble, etc. Mais il y a de plus en plus de femmes qui en regardent, tout simplement parce qu'avant, elles n'y avaient pas accès. Donc c'est presque mathématique, finalement.
Elles n'y avaient pas accès, c'est-à-dire si, elles avaient accès au cinéma porno comme tout le monde, aux cassettes VHS à l'époque comme tout le monde.
Il était beaucoup plus difficile pour une femme de rentrer dans un vidéoclub ou d'aller chercher un Playboy au kiosque. C'était tout à fait tabou quand elles osaient.
Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, apparemment, Florian Voros, est-ce qu'il commence à y avoir, on va dire, une sorte d'égalité homme-femme par rapport au porno, ou est-ce que ça restera toujours une histoire d'homme plutôt qu'une histoire de femme, en fait?
Alors, je pense qu'on s'étudie ça ou pas? Je pense qu'on est encore très loin de l'égalité.
Tiers, ouais.
Mais cela dit, c'est le cas de beaucoup d'industries culturelles. Donc là-dessus, j'isolerai pas la pornographie. Et qu'effectivement, dans les stéréotypes, ça reste associé à des comportements enfin masculins que de recourir à la pornographie. Et il y a encore beaucoup d'inégalités dans l'accès à des postes prestigieux et de responsabilité dans l'industrie pornographique, bien sûr.
Mais il y a un profil, pardon. Allez-y, Marie-Maurice.
Moi, pour faire mon enquête, j'ai rencontré pas mal de producteurs, de réalisateurs, de gens qui fabriquent ces vidéos pornographiques. Il faut dire que dans leur grande majorité, ce sont des hommes qui fabriquent un contenu à destination des hommes, parce que les gens qui achètent de la pornographie sont des hommes blancs, à majorité américains, entre 35 et 60 ans.
J'allais vous demander s'il y avait un profil type. C'est intéressant, ça commence à 35. La majorité commence à 35.
Disons que la production pornographique s'adresse à des gens en priorité qui payent pour de la pornographie. Ceux qui payent, ça reste encore des hommes en âge moyen et blancs. Mais après, il y a plein d'autres gens qui en regardent sans payer. Mais il y a un problème de modèle économique, quoi.
Oui, ouais, bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que ça pose problème, parce que tout est gratuit et que l'accès au clic, il est extrêmement simple. Aujourd'hui, il est même terriblement simple, en fait.
Et donc, les producteurs aux États-Unis, à Los Angeles, m'ont dit on a essayé de faire de la pornographie pour les femmes et ça n'a pas marché. En fait, les femmes n'aiment pas la pornographie. Alors, je dis, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Oui, des choses un petit peu plus soft, un peu plus érotiques, où on ne voit pas trop, des massages, des choses comme ça. Et puis, ça fait beaucoup rire les femmes qui travaillent dans ce secteur, parce qu'on sait tous que les études montrent que les femmes consultent de la pornographie qui n'est pas forcément soft, qui est un peu hardcore, au contraire. Et donc, on voit bien qu'il y a un secteur qui est un peu démuni par le fait que de plus en plus de femmes consultent de la pornographie et ils n'ont pas su adapter encore leur contenu à ce nouveau public.
Bonsoir Yvon.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y Yvon, soyez le bienvenu.
Merci de me prendre en antenne, c'est pas pour poser une question mais faire quelques remarques.
Allez-y.
Il faut partir du principe que la pornographie c'est un spectacle, c'est-à-dire un modèle et un exemple. Et le problème des enfants c'est qu'ils n'ont pas de mode d'emploi. Quand je dis des enfants, ça peut être aussi des adolescents. Et ils n'ont pas le mode d'emploi, c'est-à-dire qu'ils vont prendre au premier degré, entre guillemets, ce spectacle, comme ils vont prendre une émission de télévision, une émission de télé-réalité. Et qu'est-ce que montre la pornographie ? Deux choses. D'abord, que c'est une agression physique, c'est violent. C'est-à-dire, plus la femme hurle, crie, mieux c'est. Et deuxièmement, ça montre une image de la femme extrêmement dégradée. Et ils vont croire que dans la réalité, dans les relations sociales de tous les jours, l'agression et la violence et la femme dégradée, c'est normal et ordinaire puisqu'ils voient ça sur les écrans. C'est ça le fond du problème. Et dans la pornographie, il y a quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire c'est la séduction. Or, le fond du problème, c'est la séduction. Et à part ça, interdire la pornographie. La pornographie, c'est une industrie comme Hollywood, comme Broadway, comme les jeux vidéo. Sauf que, en France et un peu partout dans le monde, les vidéos nazies, antisémites ou racistes sont interdites. Mais à mon avis, l'industrie de la pornographie, ça sera impossible, ils vont traîner des cas de fer. Et je veux faire une dernière parenthèse. Un jour, j'ai entendu dans un documentaire sur la guerre d'Algérie, il y a longtemps, un prêtre qui faisait son service militaire. Il a assisté à des séances de torture, où il voyait des corps complètement en sang. Ça l'a profondément choqué parce que c'était complètement à l'opposé de son engagement religieux. Mais il était complètement hypnotisé. Et à la même époque, il a trouvé des mensuels érotique, pornographique. Et en voyant les femmes nues, c'était exactement pareil. Et il faisait un rapport entre les corps en sang, il était complètement hypnotisé et complètement choqué, hein, et aussi hypnotisé par les menstruels. On pourrait presque, c'est assez loin du thème de l'émission, mais on pourrait
faire... Si on peut faire un lien aussi, vous voyez, alors, cette histoire que vous me racontez, je la crois volontiers. Après, je ne sais pas s'il faut en faire une généralité, Yvon.
Des enfants, c'est le modèle. Qu'est-ce qu'on montre ?
Et alors justement, là-dessus, effectivement, merci beaucoup pour votre question, pour vos remarques, en tout cas, Yvon, là-dessus, sur les enfants, notamment, Marie-Maurice, est-ce que le porno peut nous faire perdre pied par rapport à la vie réelle, en fait ? Parce que c'est ça que ça veut dire aussi. Et y compris quand on est aussi vulnérable qu'un enfant.
Alors c'est vrai que d'après mon enquête, on voit que les enfants n'ont pas la même facilité que les adultes à se distancier de ce qu'ils voient et à comprendre qu'il s'agit de cinéma. Le problème, c'est que les études concernant l'impact de la pornographie sur les enfants sont encore en cours parce que tout simplement les universités n'ont pas les autorisations.
Demander aux enfants, est-ce que tu as déjà vu du porno ?
Les universités n'ont pas l'autorisation de leur montrer de la pornographie à des mineurs. Donc souvent, ce sont des études plutôt a posteriori avec des gens adultes qui se souviennent de ce qu'ils ont vu. Donc il y a les études qui sont parues sont tout à fait rassurantes, c'est-à-dire qu'il y a pas de lien de causalité entre les images pornographiques et les comportements déviants et violents, mais il faudra attendre quand même de voir concrètement qu'une étude apparaisse un peu ambitieuse pour en savoir plus.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a, Florian Voros, un démarrage dans sa vie sexuelle, en tout cas, qui peut être vicié par ce qu'on a vu si on a regardé trop le film porno quand on est tout petit ?
Alors, tout le vocabulaire qu'on utilise, y compris le mot vicié, je pense qu'il faut un tout petit peu l'historiciser. Mmh. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est nouveau avec Internet. Mmh. Or, en fait, on se pose ces questions-là en fait, depuis deux siècles. Du coup, on a beaucoup parlé d'interdiction de la pornographie. La volonté d'interdire ou de limiter l'accès à la pornographie, ça naît au 19e siècle avec l'émergence de la carte postale érotique qui est à la fin du 19e siècle et en Europe, le premier divertissement sexuel de masse. Et ce qui préoccupe beaucoup les savants moralistes de l'époque et les ligues anti-pornographie, c'est l'idée que les classes populaires, les femmes, la jeunesse, les populations soumises à la colonisation aussi, aient accès à ce qui avant était uniquement la prérogative des hommes blancs européens. Donc la volonté d'interdire, c'est souvent quand ça arrive dans les mauvaises mains. Y a toujours l'idée qu'il y aurait un certain public qui serait un public lettré, adulte, mature, et il y a l'opposition souvent d'un nous qui sommes voilà des personnes responsables qui savons regarder les images et un eux qui serait un public dangereux. Alors effectivement, il y a clairement des spécificités au niveau des jeunes publics, encore faudrait-il aussi distinguer l'enfance de l'adolescence et ainsi de suite, enfin dans la mesure où ce sont des personnes qui sont en formation sexuelle. Mais je pense qu'il faut faire attention quand on oppose de manière assez binaire comme ça un public qui serait vraiment adulte, mature, et comme nous le disait Clément, Clément nous disait ça n'a aucun effet sur moi. Moi, ça me paraît étrange de dire ça parce que je pense que on est influencé, nous sommes des êtres sociaux qui sommes influencés par tout ce qui nous entoure. Donc, quiconque prétendrait ne pas être influencé, ça me paraît...
Mais sur le... Donc du coup, l'influence du porno sur l'éveil à la sexualité, on va plutôt le dire comme ça. Est-ce qu'on le sent ? Est-ce qu'on le sait ? Et est-ce qu'on peut avoir du coup un éveil à la sexualité qui est un peu particulier, rendu plus complexe en fait par le visionnage de films porno ou pas ?
Éventuellement... Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas présenter tout ce qui serait en dehors de la pornographie comme non problématique et comme non sexiste, par exemple. Il peut aussi y avoir des préjugés sexistes qui peuvent se construire, évidemment, en dehors de la pornographie. Et la pornographie n'a d'effet que dans un contexte spécifique.
Alors, quand on parle d'interdire, Marie-Maurice, d'abord, est-ce qu'on pourrait réellement... Alors, on va même restreindre ça, interdire l'accès aux plus jeunes. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça existe à partir du moment, encore une fois, où on est à la portée d'un clic ? C'est faisable ou pas ?
C'est ce que le Royaume-Uni est en train de mettre en place, en toute discrétion, mais ça a quand même fait l'objet de gros débats là-bas. Tout simplement, ils ont décidé que tous les sites pornographiques visionnés à partir du Royaume-Uni seraient interdits à ceux qui ne présentent pas leur papier d'identité ou une carte de crédit. Donc concrètement, aucun mineur là-bas ne pourra regarder de la pornographie sans voler la carte de son papa ou de sa maman. À partir de dans quelques semaines. C'est un système qui est extrêmement coûteux et compliqué à mettre en place, et c'est c'est un système de censure de la part de l'État.
Mais ça marche pour tous les sites? Ça veut dire, par exemple, un site comme YouPorn qui n'émane pas du Royaume-Uni, on peut aussi mettre ce genre de verrou, on va dire, devant un YouPorn?
YouPorn a changé sa manière de fonctionner au Royaume-Uni, a mis en place un système de blocage automatique à partir... Du moment où on est sur le sol britannique, on va devoir faire ça. Vraisemblablement, ce n'est pas une mesure qui intéresse Emmanuel Macron, mais la France est en train de réfléchir aussi.
C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Agnès Buzyn de manière extrêmement claire. Restreindre, mais pour l'instant, sans savoir comment. Est-ce que c'est le seul exemple qu'on connaît? Je vous pose la question à tous les deux, ce que nous explique le Royaume-Uni, par exemple.
Après, il y a les régimes autoritaires qui censurent l'Internet. Donc, on arrive à des solutions qui sont quand même un petit peu radicales pour des démocraties.
Florian Borros, est-ce qu'on sait s'il y a d'autres essais, d'autres façons
de faire? Aux États-Unis, il y a eu une alliance, un moment, entre des féministes anti-pornographie et des mouvements religieux chrétiens pour l'interdiction des images pornographiques. En fait, ça a conduit dans les années 80 à une censure de la documentation de prévention de la transmission sexuelle du VIH. Donc, en fait, le problème, c'est que quand on censure la pornographie, on en vient à censurer toute forme de représentation de la sexualité qui ne correspond pas à une certaine norme de décence ou de pudeur qui, par définition, est très subjective.
Oui, et puis on en arrive à certaines photos sur Facebook, etc., passent plus pour de mauvaises raisons, etc.
Et avec un double standard sexiste, par exemple. C'est-à-dire que les torses féminins, deviendront censurés de toute une série d'espaces.
Après, je crois qu'il ne faut pas ignorer qu'effectivement, dans les écoles, les éducateurs, certains parents s'alarment parfois, effectivement, que les enfants jouent à reproduire des vidéos qu'ils ont vues. Donc, ça existe, il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Comme toujours, les enfants ont toujours reproduit ce type de comportement. Donc c'est sûr que ça questionne en tant que parent. On peut se demander jusqu'où on va, quoi, quand même.
Ce mail sur franceinter.fr qui vient de Pascal, qui dit « Je pense que je suis assez addict au porno. Une solution très simple pour une personne autour de 60 ans. » Et il nous pose cette question, c'est plutôt mignon. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Où est-ce qu'on pose le curseur moral, en fait? Faut-il poser un curseur moral tel que Pascal nous le décrit là? Pardon, vous avez 2 heures pour répondre.
Alors, moi, en tant que chercheur en sciences sociales, il m'appartient pas de savoir si les pratiques de Pascal sont bonnes ou mauvaises, mais peut-être donner quelques éléments sur quels sont les critères en fonction desquels on peut juger que c'est bon et mauvais. Et je pense, en fait, qu'il y a beaucoup de critères différents. Et notamment, si un critère qui est vraiment central pour soi, c'est la question des rapports hommes-femmes, on peut tout à fait aussi se diriger vers des pornographies alternatives, féministes. Ça existe également. Voilà. En fait, il faut faire attention avec l'expression.
La pornographie féministe, c'est quoi la pornographie féministe?
Tout simplement une pornographie où la femme est actrice de son propre désir et sa sexualité. Je ne sais pas si vous avez souvent regardé des vidéos porno, mais vous voyez tout simplement
féministes.
Que la caméra est toujours braquée sur la femme. C'est jamais la femme qui tient la caméra. Tout simplement, le porno féministe, ça commence par ça. Parce que la femme peut aussi tenir la caméra et regarder l'homme.
D'accord, mais c'est elle qui réalise, pardon, je n'ai pas tout à fait compris.
Non,
ça veut dire
pas
c'est
toujours.
Elle qui, d'accord.
Ça peut être du porno féministe fait par un homme, mais c'est réalisé dans une ambiance et des valeurs d'égalité. Les deux personnes sont de tous les sexes, sont acteurs de leur propre sexualité. Et il peut y avoir quand même des pratiques de domination. Enfin, tout est possible.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des sites spécialisés, j'allais dire, dans ce genre de vidéos qui ne sont pas les vidéos classiques, en fait, on va dire comme ça, on va mettre des guillemets, qu'on peut voir sur les YouPorn et compagnie?
Tout à fait. Il y a beaucoup de producteurs indépendants, féministes, qui produisent leurs propres vidéos, mais celles-ci sont malheureusement assez souvent payantes parce qu'ils font un travail pour lequel ils doivent être rémunérés.
Il y a une suite au mail de Pascal qui dit « Les sites libres donnent souvent des images que je réprouve, mais c'est encore mon avis, sadomaso, coup, fouet, soumission, etc. Je connais les titres, mais je ne les regarde pas. Enfin, vous pouvez me croire ou pas, nous dit-il joliment entre parenthèses. Je préfère sincèrement les vidéos plus soft avec sourire et pose cette question réelle ou pas. Là aussi, on est finalement dans la différence entre le jeu et le pas-jeu dans les films porno, Marie-Maurice.
Quand j'ai commencé cette enquête, je croyais naïvement qu'il y avait des vrais amateurs qui faisaient ces vidéos, que c'était des gens, comme tout le monde, qui, par plaisir, se filmaient. En fait, non, l'immense majorité des vidéos, c'est vraiment des gens qui jouent, qui sont payés pour jouer. Donc, c'est tout du cinéma, c'est tout du faux. Même quand ça a l'air de la voisine qui se déshabille sous la douche, ça ne l'est pas. C'est une personne qui a été payée pour mimer la voisine. voisine. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est du cinéma. Ça, il faut le garder en tête.
Est-ce que on peut dire, Florian Voros, est-ce que désormais qu'il y a une sorte d'ubérisation du porno, on va dire qu'il est beaucoup plus facile d'accès, donc beaucoup plus facile d'en fabriquer. Est-ce qu'il y a plus de violence? Est-ce que c'est plus hard? Est-ce que les pratiques qu'on demande, notamment aux femmes d'ailleurs, sont plus violentes qu'elles pouvaient l'être autrefois lorsque cette industrie était, on va dire, plus, j'allais dire amateur, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas moins répandue?
Alors personnellement, je n'ai pas enquêté sur la production, moi j'ai plutôt enquêté sur les usages, mais certaines actrices, c'est ce qui ressort du témoignage de certaines actrices, je pense que ce qui est important, c'est de considérer la pornographie comme une industrie culturelle comme une autre, et donc avec des phénomènes de domination masculine, et à ce titre-là, en retirant le stigmate, qui est posé sur la pornographie, de donner plus de marge de manœuvre aux femmes qui sont dans l'industrie pornographique pour défendre leurs droits.
Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu au téléphone sonne, Christophe, on vous écoute, allez-y.
Alors écoutez, moi je vous dis simplement une chose, pour voir la pornographie, il faut être amoureux. Il ne faut pas être amoureux en fin de compte, pardon, excusez-moi.
Donc si vous êtes amoureux, vous ne regardez pas de porno, c'est ça que vous dites en fait?
Mais évidemment, okay. Ça va de soi. Quand on aime quelqu'un et qu'on vit avec, il y a des sentiments, enfin, plein de choses, je suis un peu ému. Hein, parce
non, que, je vous en prie.
Et donc, qu'est-ce que vous voulez regarder, la pornographie? Ça n'a pas de sens. Par contre, la pornographie, c'est un système qu'il faut expliquer aux enfants, parce que le problème, c'est au niveau des enfants, parce que moi, avec l'âge que j'ai maintenant, je sais exactement comment ça se passe, mais... Il faut vraiment expliquer aux enfants que ces gens-là sont payés. C'est plus les années 69 ou 68 où il y avait des Vietnamiennes ou si patin couffin qui étaient plus ou moins payés ou fracassés ou j'en sais rien, matés si on peut dire. C'est fini tout ça. Maintenant, ce sont des gens, il y a des filles qui arrivent à la télévision qui disent « Oui, moi j'ai fait un porno et tout le monde les reçoit. » Et les mecs, à la limite, elles sont en fin de carrière, elles sont idolâtrées, quoi. C'est ça que je reproche. Et le porno, ça devrait être comme les sacs poubelles en Suisse. Alors là, je voulais en venir à ça parce que ça fait un moment que ça me travaille. Le sac poubelle en Suisse, il coûte 2 francs.
Suisse.
Excellent. Je vous adore. Il coûte 2 francs. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'acheter ailleurs. Donc quand vous remplissez votre sac poubelle, vous mettez ce qu'il y a à mettre dedans. Mais vous n'allez pas au-delà. Il y a plusieurs sacs poubelles. Vous voyez ce que je veux dire?
Et je ne vois pas le rapport donc, avec la porte.
Et honnêtement, j'ai un tout petit peu du mal à suivre la métaphore du sac poubelle. Mais on a compris ce que vous disiez, Christophe, avant, sur la relation entre être amoureux et regarder du porno. Marie-Maurice, est-ce que ça va de soi, nous expliquait Christophe joliment, quand on est amoureux, on n'a pas besoin. Est-ce que ça va de soi?
Alors, tous les consommateurs que j'ai rencontrés, à qui j'ai demandé pourquoi ils consommaient de la pornographie, m'ont expliqué que chacun a ses raisons. Parfois, ils le font quand ils sont seuls, parce qu'ils n'ont pas de vie sexuelle et puis ça les occupe. Parfois, ils sont en couple très épanouis, puis ils font ça quand même comme un moyen de se détendre. La masturbation, c'est une liberté que nous avons tous. La pornographie, souvent, aide à la masturbation. Et puis, on peut se masturber que l'on soit en couple ou pas. Donc, je pense que d'après les interviews et les études que j'ai lues sur le sujet, qui sont assez nombreuses, les personnes qui consultent de la pornographie ne sont pas des gens qui souffrent de misère sexuelle.
Pas forcément. En tout cas, est-ce qu'on peut dire, Florian Voros, qu'il peut y avoir aussi une forme de libération, en fait, pour certains, à regarder des films porno? Une libération pour, effectivement, dans leur vie sexuelle, mais aussi dans leur épanouissement, de toute façon, quoi qu'il en soit. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce qu'on peut le dire?
Alors, effectivement, ça peut arriver. Et en tout cas, je pense qu'il faut commencer, pour rebondir sur ce que disait Marie-Maurice, sur le fait qu'il y a vraiment une pluralité des usages. Il faut vraiment sortir des stéréotypes. De l'adolescent boutonneux, du vieux pervers en imperméable qui sort du sex shop. Voilà, il faut sortir de ces stéréotypes-là, parce que en 2006, donc avant de la généralisation du porno gratuit sur Internet, il y avait déjà une femme sur 5 et un homme sur 2 qui disaient en visionner souvent et parfois. Donc en fait, qui visionne du porno, c'est un peu Madame tout le monde et un peu Monsieur tout le monde. Donc c'est pas que des personnes qui ont des problèmes ou qui estiment avoir des problèmes. Après, effectivement, quand on prend le temps de discuter au-delà des stéréotypes, stéréotypes avec les personnes sur leurs usages du porno, on se rend compte qu'il y a une vraie pluralité d'usages, il y a une vraie pluralité de significations différentes, et y compris des personnes qui peuvent les visionner en couple, et ça peut participer voilà, à la construction d'une sexualité de couple. Moi, ce qui m'interroge quand même beaucoup avec tous ces témoignages d'hommes, c'est qu'on a des hommes, j'imagine plutôt hétérosexuels, en tout cas qui nous parlent plutôt de leur rapport à la féminité, et qui se défaussent, on va dire, sur les jeunes. Disent, le problème, c'est pas nous, c'est les jeunes. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand je faisais des entretiens avec des hommes adultes hétérosexuels, c'est que souvent, par exemple, il y avait des fantasmes qui consistait à forcer. Hein. On imagine une situation où il y a un homme qui force une femme, et c'est des fantasmes qui sont très répandus. Hein. Il y a aussi bien des femmes que des hommes qui peuvent avoir des fantasmes de viol, et en soi, voilà, avoir des fantasmes, on a des fantasmes, on ne contrôle pas ces fantasmes. Mais ce qui marquait beaucoup, c'était que quand on en venait à la question de manière plus réflexive, plutôt au niveau du débat, et toi, qu'est-ce que tu penses du coup des rapports de domination, c'était toujours « Ah, moi ça va, mais c'est les jeunes le problème, c'est les jeunes de banlieue même plus spécifiquement. » Donc, voilà, je crois qu'on a toute une économie un peu des discours autour de cette question-là, où constamment, les jeunes, finalement, on leur donne assez peu la parole, et c'est des hommes adultes qui nous expliquent que c'est eux le problème.
Alors justement, tiens, pour rebondir sur ce que vous dites, puis on va entendre Julie dans un instant, une femme qui sera la première au téléphone sonne ou nous appeler, juste dans une seconde, il y a Jean-Pierre dans les Yvelines qui nous dit d'abord, il n'y a pas de... qui veut revenir aux jeunes, effectivement, comme vous dites, il n'y a pas d'éducation sexuelle, il faut éduquer les enfants, le vrai problème, c'est l'éducation nationale, il faut de vrais spécialistes à l'école. Est-ce que ça y participe, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on va directement dans ce que vous êtes en train d'essayer de nous démontrer, effectivement?
En tout cas, effectivement, je pense qu'il y a un peu deux types de possibilités très générales, soit celle de l'interdiction et de la prohibition, soit celle de la mise en circulation de discours et de représentations alternatives. Donc à ce titre-là, je pense que l'éducation sexuelle joue un rôle important, et plutôt que d'interroger la pornographie, on pourrait aussi interroger le fait que les ABCD de l'égalité, donc les programmes visant à l'éducation contre les stéréotypes sexistes, n'aient pas pu mettre en place à cause de lobbies conservateurs.
Qui ont fait long feu, on se souvient de cette polémique effectivement sur les ABCD de l'égalité, et rassurez-moi Marie-Maurice, est-ce que vous expliquiez d'ailleurs tout à l'heure sur les études par rapport aux mineurs. J'imagine que même dans un cours d'éducation sexuelle, on n'a pas le droit de montrer un film pornographique aux gamins pour leur dire voilà ce genre de pratique, mais voilà ce que vous n'êtes pas obligé de faire évidemment, ni ce sont des comédiens, etc. On n'a évidemment pas le droit de faire ça avec les enfants à l'école ou ailleurs dans le cadre d'une éducation sexuelle.
Tout à fait. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les classes, on ne parle pas de pornographie dans le cadre de ces cours. Parfois, il y a des ateliers qui sont mis en place. Katsuni, avec une association qui s'appelle Open, va mettre ça en place dès la rentrée prochaine. Il y a des intervenants, mais qui ne sont pas toujours des intervenants très objectifs, formés à la pédagogie. Parfois, c'est pris en charge par des mouvements plutôt catholiques, un petit peu réactionnaires. Donc, tant qu'on n'a pas un système installé et globalisé de prévention et de dialogue ouvert sur ces questions, les jeunes en sont soumis à parler à leurs parents, ce qui est vraiment très difficile pour énormément d'enfants, voire impossible. Ou alors tenter de trouver un adulte ou une personne de référence pour en parler, mais là encore, c'est pas facile.
Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Je suis contente qu'on ait enfin une femme au téléphone sonne ce soir. On vous écoute Julie, allez-y.
Moi aussi.
Vous comptez pour deux, prenez votre temps.
Très bien. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient juste d'être dit. Je pense en fait qu'on vit dans un monde qui est relativement paradoxal, pour ne pas dire hypocrite, parce qu'en fait on vit dans une société occidentale qui est quand même hyper sexualisée, notamment à travers la publicité. Mais on ne prend pas le temps d'expliquer vraiment ce que c'est que la pornographie, de donner une définition. Même on parle du porno comme de quelque chose de général, sans vraiment rentrer dans une définition. Et même par rapport au niveau de l'éducation sexuelle, je pense que c'est assez catastrophique, notamment en France. Et pour moi, en fait, la question, tout le débat qu'il y a autour de l'interdiction de la pornographie est en fait mal posée, parce que le meilleur moyen de protéger les enfants, parce que je rappelle que la pornographie est interdite aux moins de 18 ans, c'est de ne pas laisser un enfant sans surveillance devant un écran, en fait. Parce qu'à partir du moment où on permet à un enfant d'aller librement sur Internet, d'aller librement, pour moi, même un enfant, c'est trop jeune, ce serait plutôt un ado, un pré-ado, et bien il faut lui expliquer avant. Enfin, il faut pas le laisser aller sur une plateforme comme ça, sur laquelle il peut se retrouver face à des images qui vont profondément le choquer, que ce soit le porno ou que ce soit autre chose. Donc pour moi, le débat est mal placé, parce que le porno en lui-même, je pense que c'est une mise en image de fantasme qui ne doit pas être mise, bien évidemment, devant les yeux d'un public non averti.
Merci beaucoup Julie pour ces remarques. Vous voyez approuver Florian Voros ce que disait Julie à l'instant.
Oui, parce que je trouve que ça permet de démêler un peu les fils du problème. Et le problème, enfin, on mélange souvent tout avec le mot d'exposition. On parle de l'exposition ou de la surexposition. C'était le titre un peu malheureux, je trouve, de la une de 20 minutes liée au sondage que vous mentionniez. Or, dans exposition, il y a l'idée à la fois que ce serait négatif. On est exposé au VIH, on est exposé à l'amiante, et l'idée que ce serait passif. Et je pense qu'il faut distinguer ce qui relève de la curiosité sexuelle des jeunes et ce qui relève de l'exposition, pour le coup, passive et intempestive. Et du coup, en fait, ça pose la question plus générale de la publicité, en fait.
Il y a cette question sur franceinter.fr qui nous vient, enfin en tout cas deux remarques que je voudrais vous soumettre. J'ai été extrêmement accro au porno de 14 à 29 ans, c'est ce que nous dit un auditeur. J'ai vu mes pratiques changer et mon rapport aux femmes se dégrader. Je suis persuadée que les violences aux femmes augmentent en raison du porno. Je n'ai pas vu une seule image depuis 6 ans. J'ai réussi en bannissant internet de ma vie et en pratiquant de la méditation intensive. Voilà pour le premier mail. Le second dit: je regarde du porno, je ne suis ni un violeur ni un malamoureux. Je regarde aussi des films de karaté, je ne suis pas un violent. Le porno pour moi reste un divertissement à deux ou un divertissement seul. Et nous ajoute encore une fois sur franceinter.fr cette auditrice: il ne faudrait pas négliger la misère sordide de la production du porno, qu'on fait notamment ce que dit beaucoup Ovidie, qu'on avait reçu il n'y a pas très longtemps ici au téléphone sonne, également sur un autre sujet. C'est aussi ce que vous dites d'ailleurs, Marie-Maurice, dans votre livre Planète Porn. La démultiplication du porno, notamment sur les sites de YouPorn, etc., fait aussi que je vais le dire comme ça, l'usage de certaines femmes et parfois encore plus problématique qu'il a pu l'être, non ?
Alors, c'est un secteur qui vit une crise économique assez grave, puisque comme il y a Internet, les gens ne payent plus pour regarder de la pornographie, donc ils gagnent moins d'argent. C'est ce qui se passe un peu dans plein de secteurs qui ont été disruptés, comme on dit avec ce mot à la mode. Et donc, effectivement, les gros...
Ça veut dire des femmes plus maltraitées, ça veut dire des femmes beaucoup moins bien payées,
Je suis de loin pas aussi négative qu'Ovidie. Je pense qu'il y a certaines industries qui ont pas mal souffert, mais depuis une dizaine d'années, elles ont commencé à changer de modèle, et puis elles ont notamment massivement investi dans les cams. Les cams, ce sont ces peep shows privés que les gens payent extrêmement cher, et elles font énormément d'argent avec ça. Donc je pense que l'industrie du porno a réussi à amorcer, en tout cas en partie, le tournant. Mais c'est vrai que comme il faut toujours plus de chair fraîche, entre guillemets, comme l'internaute réclame des nouveaux visages et des nouveaux corps en permanence, il s'est mis en place un nouveau système qui consiste à faire venir des jeunes filles toujours plus jeunes pour faire des pratiques assez extrêmes et qui peuvent être violentes pour satisfaire le consommateur qui en a un peu marre de voir toujours la même chose, effectivement.
Florian Voros, il y avait quelque chose dans la remarque de Julie tout à l'heure qui disait qu'il faudrait s'accorder sur la définition du porno. Est-ce qu'il y a une définition ? Comment ça se définit la pornographie réellement, en fait ?
Alors, il n'y a pas de définition universellement possible. Le mot pornographie est né en fait au XVIIIe siècle, pardon. Au début, c'était porno, donc c'est prostitution, et graphein, c'est l'écriture. Et c'était des traités de santé publique, donc des médecins qui écrivaient souvent des propos assez moralistes, orientés autour du contrôle social, sur les prostituées, les travailleuses du sexe. Puis, au XIXe siècle, c'est devenu une catégorie de censure pour le 18e siècle était un siècle bourgeois, c'était pour censurer les images impudiques. Donc en fait, c'est toujours lié à une question de sensibilité, de ce qui devrait rester privé et ne pas être montré publiquement. Donc du coup, c'est très difficile d'avoir des définitions objectives de la pornographie, mais souvent dans le sens commun, ce qu'on entend, c'est une image qui a pour but de susciter une émotion sexuelle chez le public.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'adeptes qu'il n'y en avait, ce sera la dernière question, Marie-Maurice, qu'il n'y en avait grâce aux sites et grâce aux accès, ou finalement les adeptes de la pornographie, ceux qui la regardent, ont désormais des accès effectivement plus faciles, mais ne sont pas forcément énormément plus nombreux qu'ils pouvaient l'être il y a 15, il y a 20, il y a 30, 25 ans?
Si, ils sont beaucoup plus nombreux. On parle d'une vraie démocratisation. Les femmes y ont accès, beaucoup plus d'hommes y ont accès. Il y a des publics dans plein de pays différents qui y ont accès.
Est-ce qu'on donne un chiffre ?
Pour moi, c'est positif.
Quand on disait tout à l'heure, je ne sais pas combien de personnes ça représente, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, j'en sais rien, moi, un Français sur deux a forcément été à un moment sur un site pornographique ? Est-ce qu'on peut donner des chiffres de ce genre-là ou pas ?
Oui, ils existent. Chaque année, 100 milliards de vidéos sont regardées gratuitement sur le site Pornhub, donc 100 milliards par an, c'est plus que...
Ça fait beaucoup, 100 milliards par an.
Mais pour moi, c'est pas un problème.
Et on l'a bien compris. Merci beaucoup. Je vais rappeler que votre livre s'appelle Planète Porn. C'est publié chez Stock. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir participé au téléphone sonne. Merci à tous pour vos appels.